autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, amis auditeurs, pour jouer avec tous nos sens aujourd'hui et repousser les limites de l'impossible en nous interrogeant sur l'art et la science de l'illusion. Tour de magie, mentalisme, téléportation, comment les illusionnistes nous embarquent-ils ? Sont-ils vraiment magiciens ? Comment détournent-ils notre attention ? De quel écart de perception, de quelle faille dans notre cerveau se servent-ils ? En quoi cela intéresse les neuroscientifiques ? Qu'est-ce que la théorie du corridor ? Pourquoi la lumière est-elle aux origines de l'illusion ? Comment l'électromagnétisme permet la lévitation sans peine, comme par magie ? Sans dévoiler tous ces trucs, notre invité, le célèbre illusionniste québécois Luc Langevin, nous fait partager sa science de l'illusion. Très inspiré par l'optique, les mathématiques, les neurosciences, la psychologie ou même la physique quantique, entre illusion et réalité. Autour de la question, y a-t-il une science de l'illusion et comment la partager ? Bienvenue. Bonjour Luc Langevin.
Bonjour Caroline.
Merci de vous être téléporté depuis le Québec pour être avec nous en studio sur RFI. Vous nous expliquerez comment vous avez fait. Hein. Alors, vous aimez bien, je crois, partager votre science de l'illusion. La science de l'illusion, c'est le titre de l'ouvrage que vous venez de publier aux éditions Michel Lafond. Car avant d'être l'illusionniste de renommée internationale, qui fait salle comble à Montréal, New York, Londres ou Paris, magicien star de la télé québécoise comme sur le net, vous avez commencé, Luc, non pas par l'illusion, mais par la science.
Tout à fait.
Titulaire d'une maîtrise d'optique, vous avez également étudié la biophotonique. Avant de vous consacrer donc à votre art, la magie, mais vous préférez, je crois, parler d'illusion et de science, Luc Langevin.
Oui. Tout à fait, je trouve que c'est plus honnête puisque j'ai jamais prétendu avoir de pouvoirs paranormaux, d'avoir de dons, donc je suis très authentique par rapport à ce que je fais, c'est de l'illusion, donc je donne l'illusion de faire de la magie, mais ce n'est pas de la vraie magie, donc j'utilise la science pour créer des illusions, pour faire rêver, pour émerveiller les gens, donc voilà.
Vous aimiez faire des tours, je crois, depuis votre plus jeune âge, en tout cas ce que vous nous dites dans ce livre, La science de l'illusion, mais vous avez commencé par vous poser des questions. Question scientifique, votre mot préféré quand vous étiez jeune, c'était pourquoi, c'est ça ? Comment ça marche et pourquoi ?
Oui, c'est un des premiers mots que j'ai prononcé, c'est ce que ma mère m'a dit. Oui, en fait, j'étais quelqu'un de, et je suis encore quelqu'un de très curieux, je me posais beaucoup de questions sur le fonctionnement des choses, en fait. Et comment les choses fonctionnent, donc très jeune, j'aimais démonter les appareils électriques, voir comment ça fonctionnait, et lorsqu'on est curieux de savoir comment les choses fonctionnent, la science apporte beaucoup de réponses, donc c'est de là qu'est né mon intérêt pour les sciences, et c'est de là qui est né mon intérêt pour la magie, pour l'illusion aussi, puisque lorsqu'on aime comprendre, ça peut être très frustrant de voir un tour de magie, de voir une illusion sans avoir une idée du mécanisme derrière qui le fait fonctionner. Donc c'est la curiosité qui m'a mené à la fois vers la science et vers l'illusion.
Vous vous définiriez quoi aujourd'hui ? Comme un illusionniste, évidemment, mais avec un goût, une appétence pour la science et pour la compréhension du monde, de notre monde ?
Voilà, un illusionniste scientifique, je dirais. Donc j'aime utiliser la science pour émerveiller, faire l'extraordinaire avec l'ordinaire. Voilà.
Qu'est-ce que la magie ? Qu'est-ce que la réalité ? Autant de questions que nous allons soulever. Autour de la question, y a-t-il une science de l'illusion ? Je propose comme entrée en matière, comme entrée en scène, un petit aperçu sonore évidemment et bluffant de votre science de l'illusion sur scène avec le mix forcément magique d'Apolline Berlon-Raison.
Si je fais ça, Ryan, tu m'as vu lancer ta bague dans ma main, n'est-ce pas ? C'est pas ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est échanger ta bague pour la tomate qui était là il y a un instant.
Il se définit comme un créateur d'illusions. C'est un Québécois.
La science m'a en quelque sorte mené à l'illusion, si je peux dire.
Vous avez une maîtrise en optique et un doctorat de biophotonique.
Il y a seulement 10% des images captées par nos yeux qui sont perçues par notre cerveau. Donc, c'est pas parce que ça se produit sous nos yeux qu'on le voit.
Alors, fermez les yeux quelques instants et vous allez vous concentrer, disons, sur un objet que vous pourriez facilement dessiner.
C'est un tour de cartes. Est-ce que vous pouvez mélanger les cartes ?
Absolument.
Merci, ouais. Merci. Ouais. Comme ça, nous sommes sûrs qu'il n'y a pas de triche, le jeu est bien mélangé.
Je vais vous demander de me donner trois objets, trois noms d'objets, mais qui n'ont absolument aucun rapport avec l'objet auquel vous pensez. Alors, instinctivement comme ça, donnez-moi le nom d'un premier objet maintenant.
Un biberon.
Un biberon. Ensuite ?
Une barrette.
Une barrette et
Un peigne.
Regardez, ici, il n'y a plus du tout de signature.
Et maintenant, nous avons exactement...
Non, c'est dingue, c'est dingue.
Comment c'est possible?
Et je vais vous demander de penser une carte parmi les 52 cartes qu'il y a dans un jeu. Vous en avez une? Je peux pas savoir la carte à laquelle vous pensez. C'est impossible. Logiquement.
Logiquement.
Sauf si j'ai le pouvoir de pénétrer dans votre esprit.
Arthur C. Clarke avait dit « Toute technologie suffisamment évoluée est impossible à distinguer de la magie. Les progrès de la science vont-ils diminuer les effets de la magie ?»
Vous voulez répondre, Luc Langevin?
Oui, bien sûr. En fait, je ne crois pas que les effets de la science vont diminuer l'effet de la magie. Au contraire, en fait, depuis les dernières années, moi, ce que j'observe, c'est un regain d'intérêt de la part du public face à la magie, face au spectacle d'illusion. Et je pense que c'est justement parce qu'avec toutes les nouvelles technologies de communication, on voit tellement de choses qu'on a de la difficulté de plus en plus à s'émerveiller. Et la magie est un des seuls arts qui a ce pouvoir, justement, de nous refaire vivre ces émotions qu'on vit au quotidien lorsqu'on est enfant, lorsqu'on voit le Père Noël pour la première fois, par exemple. Et ces sensations, on ne les vit plus après en vieillissant. Mais la magie, lorsque quelqu'un apparemment fait léviter un objet devant nous, ou nous emprunte un billet de banque, le transforme, ou finalement on revit ces émotions. Donc je pense que, en fait, la technologie, en fait, même les magiciens utilisent les nouvelles technologies pour créer des illusions encore plus bluffantes, qui font encore plus rêver. Donc moi, je dirais que la magie va survivre à tout ça.
Est-ce que ça existe ou pas, la magie, Luc Langevin?
En fait, la magie, elle existe dans nos têtes, je crois. Donc, la réponse courte, ça serait, je dirais non, malheureusement, mais ce que font les illusionnistes, par exemple, ils vous montrent une situation A et une situation C, et le point B, là où la magie se produit, c'est nous qui la créons dans notre tête. J'aime parfois donner comme exemple, finalement, que si je mets une pièce de monnaie dans ma main et que je ferme les doigts, il n'y a rien de magique là-dedans. Et si j'ouvre ma main pour vous montrer qu'elle est vide, pris isolément, cet événement non plus n'est pas magique. Mais si je fais les deux un après l'autre, mettre la pièce de monnaie, fermer mes doigts, puis les ouvrir et montrer qu'elle n'est plus là, c'est vous, dans votre tête, qui tirez la conclusion qu'elle est disparue, finalement. Donc, c'est dans votre tête que la magie se produit, parce qu'en réalité, j'ai probablement subtilisé la pièce sans que vous le voyiez, mais cet événement, vous ne l'avez pas vu. Donc, bref, la magie existe, mais dans nos têtes.
Alors, la magie, en particulier, et vous en parlez avec cet exemple-là de la pièce, elle marche beaucoup avec un de nos sens, qui est la vision, la vue. Vous parlez d'illusion visuelle avant de parler d'illusion d'optique. C'est pas la même chose.
Oui, non. C'est une chercheuse qui fait la distinction entre les deux, Madame Susana Martinez.
Que l'on va entendre dans quelques instants.
Voilà. Donc, c'est elle la première à avoir donné la
définition. Neuroscientifique.
Neuroscientifique, exactement, qui fait beaucoup de recherches grâce à des illusionnistes, en fait, qui étudient le cerveau et qui fait la distinction entre les illusions visuelles qui sont... En fait, je commencerai peut-être par les illusions d'optique, qui sont des illusions où l'illusion, en fait, est créée avant même que l'illusion atteigne l'œil. C'est-à-dire, toutes les illusions qui fonctionnent avec des miroirs ou avec des écrans de fumée ou liés à la lumière, ce sont des illusions d'optique. C'est-à-dire que même si je filme, par exemple, l'illusion avec une caméra, l'illusion fonctionne toujours. L'illusion visuelle, c'est différent. C'est une illusion qui est créée par le cerveau humain. C'est-à-dire que si, par exemple, je fais un mouvement tellement rapide que votre œil n'est pas capable de le percevoir, c'est une illusion visuelle. Parce que si après, par exemple, je filme avec une caméra hyper rapide le mouvement, là, on pourra voir.
Ou si... Donc, une illusion d'optique, c'est une illusion qui existe effectivement. Vous en donnez un ou deux exemples dans votre livre. Quand on voit par exemple des lignes, on a l'impression qu'elles sont complètement tordues. En fait, elles sont droites. Là, c'est une réelle illusion d'optique. Tandis qu'une illusion visuelle, c'est nous qui la fabriquons.
En fait,
dans notre cerveau.
Les exemples que vous donnez dans le livre, ce sont des illusions visuelles. Parce que, par exemple, les lignes, l'exemple qu'il y a dans le livre, c'est que les lignes sont parfaitement droites, mais on a l'impression qu'elles sont tordues. Mm-hmm. Mais c'est notre cerveau qui nous les fait voir tordues. Parce que si on prend une règle ou un rapporteur d'angle, on regarde, elles sont droites. Mais notre cerveau, par les neurones qui s'occupent de différencier les contrastes, nous donne l'illusion qu'elles sont tordues. Donc, c'est une illusion créée par le cerveau, une illusion visuelle dans ce cas.
Et ces illusions visuelles, vous l'avez dit, intéressent grandement les neuroscientifiques. Je propose donc d'écouter l'éclairage de la professeure Susana Martinez-Condé. Elle est professeure d'ophtalmologie, de neurologie, de physiologie et de pharmacologie à l'Université de New York, où elle dirige le laboratoire de neurosciences cognitives. Susana travaille notamment sur les différences entre perception, illusion et réalité. On l'écoute.
Perception is our subjective experience of the world.
La perception, c'est notre expérience subjective du monde. Et ce qui est intéressant, c'est que cette expérience subjective correspond très rarement à la réalité objective qui est là. On parle donc d'illusion, de perception subjective, qui ne correspondent pas à la réalité. Et nous sommes tous coutumiers d'illusions spectaculaires que nous pouvons voir sur Internet. Ce sont des cas dans lesquels la différence entre la réalité et perception est la plus importante. C'est vraiment cela qu'on appelle en général illusion. Mais le fait est que la plupart de nos perceptions sont, dans une certaine mesure au moins, illusoires. Car très très rarement, il existe une correspondance à 100% entre la réalité et la perception.
Et c'est évidemment là-dessus que vous jouez en tant qu'illusionniste, Luc Langevin.
Tout à fait. C'est ce que j'exploite pour faire vivre une émotion d'émerveillement. Donc cet écart de perception, les raccourcis que le cerveau fait finalement pour nous rendre plus efficaces. Hein. Ce n'est pas des failles qu'on a dans notre cerveau parce qu'on est défaillant. C'est vraiment pour nous rendre plus efficaces. Mais c'est là où le magicien, l'illusionniste peut intervenir pour exploiter ces raccourcis pour nous émerveiller.
Alors on va s'en rendre compte tout à l'heure puisque vous allez nous faire un tour... À la radio, c'est pas évident, hein, parce que ça n'est pas visuel justement, non. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous expliquer par exemple qu'est-ce que c'est que la technique du corridor?
Oui, c'est une technique que j'utilise et qui est utilisée par plusieurs illusionnistes pour créer des tours, mais ça peut être pris par n'importe qui veut convaincre quelqu'un finalement. Donc, la théorie du corridor, en fait, c'est si par exemple, si je veux concevoir un tour, je peux faire l'analogie que c'est un peu comme prendre le spectateur, les gens à qui je vais faire le tour, de les prendre par la main et de les guider dans un long corridor. Et mon but comme illusionniste, c'est de les amener au bout du corridor, là où se trouve l'émerveillement, la sensation de rêve, d'émerveillement. C'est ce que je veux que mes spectateurs vivent. Le problème, c'est que l'esprit cartésien de ces spectateurs va tout faire pour ne pas se rendre au bout du corridor parce qu'ils savent que la magie n'existe pas. Donc, ils vont essayer de sortir par une porte le long du corridor. Les portes, ce sont les pistes d'explication rationnelles. Donc, si je reprends l'exemple de la pièce de monnaie qui disparaît, par exemple, quelqu'un pourrait dire « Ah, il a caché la pièce dans sa manche. » Donc, ça, c'est une porte. Ou,
vous regardez dans votre manche, et d'ailleurs, c'est pour ça, vous le dites bien, que vous soulevez vos manches.
Voilà, c'est là où je veux en venir. En fait, le but d'un magicien, lorsqu'il conçoit un tour, c'est de fermer toutes ces portes et de les verrouiller, afin que le spectateur n'ait aucune piste d'explication, n'ait aucune porte par où s'échapper et n'ait pas le choix de se rendre au bout du corridor.
Et soit obligé de s'émerveiller.
Ben voilà. Donc, c'est pour ça que le magicien, par exemple, s'il remonte ses manches avant le numéro, déjà, il y a une porte qui est fermée. Si vous empruntez la pièce de monnaie au lieu de prendre la sienne, ben déjà, la possibilité que ce soit une pièce truquée est barrée aussi. Et donc, c'est une autre porte qui se ferme. Et donc, par différents gestes, par les mots qu'il va utiliser, les actions qu'il va poser, le magicien va fermer les portes comme ça pour vous emprisonner dans le corridor et vous donner aucun autre choix que de vous rendre au bout de ce
Allez, moi, je vous suis dans votre corridor. Autour de la question, y a-t-il une science de l'illusion? On va s'interroger en écoutant Kate Richard et Norah Jones nous bercer d'Illusion.
It's an illusion in my blood, but it's not the one you're thinking of. Illusion in my heart. Just an illusion, that's for sure. Nothing that you've seen before, baby. An illusion, but not the one you're looking for. Yes, between.
Illusion sur RFI, Keith Richards et Norah Jones, c'est assez magique, sur RFI. Autour de la question, y a-t-il une science de l'illusion et comment la partager? Nous sommes en compagnie de l'illusionniste québécois Luc Langevin, avec tout de suite une nouvelle question pour vous, Luc, soulevée par l'auteur et blogueur de science Thomas Durand.
Est-ce qu'il connaît James Randi, qui est un magicien américain, un sceptique justement, c'est une des grandes voix américaines sur le scepticisme, et qui a dit que lui c'est un menteur honnête. Et qu'est-ce qu'il pense des mentalistes et des magiciens qui font croire qu'ils ont des capacités alors qu'en fait ils manipulent eux aussi d'une certaine manière les gens? Est-ce que c'est une magie honnête?
Êtes-vous un magicien honnête, Luc Langevin?
Ben, j'ose espérer que oui. C'est la raison pour laquelle je préfère être appelé illusionniste que magicien. Mmh. Donc, je trouve que déjà, c'est plus honnête d'utiliser cette appellation-là. Pour répondre à la question, je connais bien James. En fait, je dis je connais bien. Je ne connais pas personnellement, mais je connais bien l'œuvre de James Randi, qui est le sceptique par excellence, qui a offert des milliers de dollars à toute personne qui pouvait démontrer hors de tout doute qu'il ou elle avait des pouvoirs surnaturels. Et personne n'a réussi jusqu'à maintenant, justement parce qu'il voulait faire la démonstration que la vraie magie n'existe pas, en quelque sorte, que tout n'est qu'illusion. Donc, il y a peut-être ça qu'on a en commun.
Ce qui n'empêche pas d'être illusionné, justement, d'être émerveillé, d'être illusionné. Ça n'empêche pas que ça marche. Très étonnamment, en lisant votre livre, on en apprend sur le fonctionnement de notre cerveau, sur le fonctionnement de vous autres illusionnistes et le travail qu'il y a derrière. Mais ça donne toujours autant envie d'aller voir au spectacle.
Ben, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit le livre. Et d'ailleurs, pour continuer sur la question de savoir si les mentalistes et autres magiciens sont honnêtes, en fait, je pense que d'aller voir un spectacle de magie ou de mentaliste, c'est un peu comme aller voir un film au cinéma. Lorsqu'on va voir un film, une fiction, on sait que c'est fictif, on sait que c'est des comédiens, que ce sont des effets spéciaux, bref, que ce n'est pas réel, mais ça ne nous empêche pas de vivre des émotions en regardant le film et de se laisser transporter. Je pense que c'est la même chose avec les magiciens, avec les spectacles de magie. On sait très bien qu'il y a un truc, on sait qu'il y a un secret, mais si le magicien est doué, il va nous transporter, il va nous faire vivre des émotions et on va passer un bon moment. Donc c'est
et parfois, il va nous manipuler. Vous l'expliquiez vous-même, finalement, Luc Langevin, dans cette technique du corridor où vous fermez toutes les portes qui pourraient, pour nous emmener vers l'émerveillement. Est-ce que vous voulez nous montrer? Vous avez aussi l'art de la manipulation.
Oui, ben il faut pour être un bon illusionniste. Donc il faut savoir manipuler. J'ose dire que c'est dans un but louable pour émerveiller les gens. Et évidemment, ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes objectifs. Mais oui, on doit manipuler les gens. En fait, on doit justement lorsqu'on les guide dans ce corridor, on doit mettre de l'avant certaines choses. En fait, c'est un peu comme faire de la voile. Le magicien va en quelque sorte contrôler le vent. Il va souffler dans une direction pour vous amener dans une direction. Après, si vous ne voulez absolument pas, il y a toujours moyen d'aller à contresens. Mais oui, c'est de la manipulation pour arriver à une sensation d'émerveillement.
Et cette manipulation vous permet de manipuler les gens, vous permettrait de manipuler les gens parce que vous êtes un illusionniste honnête qui va sur scène. Mais on se dit qu'en marketing, par exemple, on peut utiliser le même genre de technique.
Tout à fait. En fait, lorsqu'on est moi-même par des formations professionnelles, à force de travailler dans le monde de l'illusion, j'ai pris conscience que justement, avec le marketing, avec toute personne qui essaie de nous convaincre de poser un geste, utilise le même genre de technique pour nous amener à acheter un produit. Ou à voter pour quelqu'un ou à endosser certains propos. Donc, c'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu écrire le livre, pour que les gens en prennent conscience et deviennent peut-être un peu plus libres de leurs choix, parce qu'on est tous libres de nos choix, mais il y a certains courants qui nous entraînent dans certaines directions. On nous montre des chemins plus faciles que d'autres, alors que parfois, peut-être, on aurait intérêt à tracer notre propre voie.
Autour de la question, y a-t-il une science de l'illusion et tout l'intérêt de la partager? On continue de s'interroger avec vous, Luc Langevin, sur cette science de l'illusion, qui est donc le titre de votre livre, qui vient de paraître chez Michel Lafon. Vous restez avec nous, on se retrouve dans 3 minutes, juste après le flash d'info. Le temps pour vous de nous préparer un petit tour de magie à la radio, c'est pas évident, mais je pense que ça va rester magique. À tout de suite.
Fire.
De la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie. Autour de la question, y a-t-il une science de l'illusion, en compagnie du célèbre illusionniste québécois Luc Langevin, qui nous fait partager sa science de l'illusion aux éditions Michel Lafon. Et sur nos ondes, magie de la radio, Luc Langevin, vous allez nous faire ici même, maintenant, un tour de magie. Nos auditeurs internautes pourront ensuite le voir sur notre page Facebook. En attendant, c'est moi qui vais me laisser illusionner ou pas. C'est parti. J'ai vu que vous avez remonté vos manches.
Oui.
Levé le rideau sur la musique de votre premier spectacle. Vous n'avez rien dans les mains encore.
Rien encore. Déjà, j'ai commencé à fermer les portes le long de ce corridor dans lequel j'essaie de vous amener, Caroline. Et en fait, je dois vous dire que j'aime bien dans mes numéros qu'on mélange illusion et réalité, qu'on ne sache pas trop où commence finalement ce qui est réel ou ce qui est imaginaire. Par exemple, Caroline, si je vous demande de me nommer une carte à jouer, n'importe quelle carte à jouer d'un jeu de cartes, celle qui vous passe par l'esprit, où vous pouvez changer d'idée, mais si je vous demande d'en nommer une, celle que vous voulez.
Donc là, je dis le nom de la carte.
Ouvertement, oui.
As de pique.
L'as de pique. Est-ce que c'est un choix que vous endossez complètement ou vous voulez changer d'idée? Je vous donne l'option, mais c'est
non, il m'est venu tout de suite, donc je le garde.
L'as de pique, c'est une très bonne carte. Donc en ce moment, on n'a pas d'as de pique sous les yeux, donc on se l'imagine. On a tous une image en tête de ce à quoi ressemble un as de pique, mais on ne peut pas y toucher, on ne peut pas le voir. Ce qui n'est plus le cas si je sors un jeu de cartes, ce que je fais à l'instant.
Donc là, vous vous retournez, vous allez dans votre sac et vous sortez un jeu de cartes.
Un jeu de cartes, voilà, qui est toujours dans sa boîte, mais je vais le sortir de sa boîte et vous montrer que je ne peux pas isoler l'as de pique de ce jeu de cartes. Vous savez pourquoi? Parce que si je vous montre la face des cartes, vous allez constater que ce sont toutes des cartes blanches.
Effectivement, elles sont toutes blanches, il n'y a aucune figure dessus.
C'est comme si on avait oublié d'imprimer sur ces cartes. Mm-hmm, mais c'est voulu. Okay? Donc en fait, n'importe quelle de ces cartes pourrait être l'as de pique. En fait, j'en prends une par exemple, ça ici, ça pourrait être un as de pique. Si
mais
on
elle est blanche. Hein.
Mais elle est blanche. Je vais la poser dans votre main, si vous permettez, Caroline. Vous pouvez me tendre votre main. Oui, votre
main. Ma main gauche.
Parfait. Je place ça juste ici.
D'accord. Donc, je prends votre carte. Je ne la vois pas, bien sûr, mais enfin, je sais qu'elle est blanche de l'autre côté.
Voilà. Maintenant, Caroline, imaginez-vous que cette carte n'est plus blanche. Imaginez-vous que cette carte est un as de pique. Que vous voyez la forme de l'angle sur. Imaginez-vous que c'est là, que c'est dans votre main. Et comme je vous disais, moi, j'aime bien lorsque l'imagination devient réalité. Donc, je vais juste passer ma main juste au-dessus de la vôtre. OK, vous voyez, il n'y a rien dans ma main.
Il n'y a rien dans votre main, à part vos bagues.
À part les bagues, voilà. Donc, je ne fais que passer
au passage. Vous passez votre main au-dessus de la mienne.
Et si vous retournez la carte, Caroline, vous allez constater quelque chose sur la face.
C'est pas possible. Ah ouais, c'est incroyable. C'est un as de pique.
C'est un as de pique, c'est matérialisé dans votre main.
C'est matérialisé dans ma main. Là, je suis bluffée, complètement scotchée. Parce que je peux dire, faut que je continue l'émission en plus, on est complètement bluffée. Et les autres sont restés blanches.
Les autres sont toujours blancs, c'est la seule.
Je sais pas si de l'autre côté de la vide, vous êtes aussi bluffée que moi, mais amis auditeurs, vous allez voir ça sur Facebook. Moi, je ne comprends pas.
Je
ne comprends rien. Je sais pas comment vous avez fait. Est-ce que vous avez utilisé des forces invisibles ou des choses bien réelles? Bon, je vais pas vous demander votre truc, évidemment.
J'ai utilisé la science de l'illusion.
La science de l'illusion, avec quoi comme sens? Parce que là, je ne sais pas si c'est ma vision qui a été eue, mon toucher, mon... qu'est-ce que vous avez manipulé chez moi, là?
Donc, deux choses principalement, votre vision...
Mais je suis vraiment bluffée, hein,
oui, c'est
pas...
Ce
voilà, je suis scotchée, là, continue.
Donc, deux choses principalement, la vision... Donc, j'ai exploité, si je peux dire, la résolution que l'œil est capable de capter par rapport aux objets. Donc, dit comme ça, c'est flou, mais je ne veux pas vous dévoiler le
bien
secret.
Bien sûr, bien sûr.
Et j'ai utilisé la psychologie également pour vous... comment je dirais?
Oui, vous m'avez parlé, vous m'avez pris dans vos filets un peu quand même.
En quelque sorte, j'ai guidé vos choix un peu par les mots que j'ai utilisés, les gestes que j'ai faits. Donc ce sont les deux outils que j'ai utilisés pour mener à bien cette illusion. Donc,
vous êtes un fin psychologue finalement aussi.
je sais. Surtout en fait pour l'illusion. Je connais bien la psychologie reliée aux illusions, mais je ne pourrais pas vous faire une thérapie si vous avez des problèmes liés à votre enfance. Mais par rapport à en fait comment renforcer psychologiquement une illusion, comment générer une sensation d'émerveillement, ça je sais faire.
Quel est lequel de nos sens est le plus manipulable ou illusionnable? Je ne sais pas comment il faut dire.
Oui, définitivement la vision.
Ouais.
Parce que, en fait, c'est prouvé que notre cerveau, 80% des informations que notre cerveau reçoit provient du sens de la vision. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on est porté à fermer nos yeux. Par exemple, si on veut se concentrer pour écouter une musique ou si on embrasse quelqu'un pour la première fois, on veut couper notre sens de la vision pour... que l'énergie pour se concentrer sur tous les autres sens en fait. Donc c'est le sens qui peut être trompé d'un très grand nombre de façons, finalement. Donc, on en parlait, il y a l'illusion d'optique, il y a l'illusion visuelle, il y a la résolution de l'œil, le fait qu'il y a quelque chose qui est très, très petit, on ne peut pas le percevoir. La rapidité aussi, l'œil capte 300 images par seconde, mais le cerveau n'est pas capable d'en analyser autant. Il en analyse 10%, soit environ 30 images par seconde. Donc, si je fais un mouvement qui est fait en 1/30 de seconde, jamais vous pourrez le voir. Donc ça, c'est...
Mais pour faire ce mouvement, j'imagine que ça nécessite des heures et des heures de travail. Là, c'était tout simple.
Absolument.
Vous étiez tout sourire, l'air de rien. Vous m'avez sorti votre paquet de cartes. Mais j'imagine que derrière, il y a...
Oui, pour faire un parallèle avec les Jeux olympiques qui se déroulent en ce moment, lorsqu'on regarde un athlète plonger dans l'eau, ça a l'air tout simple, ça a l'air facile même, alors qu'il y a des années d'entraînement derrière. Et c'est justement lorsque ça a l'air facile qu'en fait, c'est parce qu'il y a une maîtrise derrière, il y a plusieurs heures d'entraînement. Donc, c'est le cas ici. Moi, j'ai passé mon adolescence à pratiquer les techniques que j'utilise aujourd'hui pour gagner ma vie. Donc oui, il y a des heures, parfois même des années, pour réussir certains stratagèmes qui font rêver.
Peut-on vraiment manipuler notre cerveau? C'est la question que je vous pose. C'est aussi la question que s'est posée un autre chercheur en neurosciences, Christophe Marandaz. Lui, il est professeur de neuropsychologie cognitive au laboratoire CNRS de l'Université de Grenoble. Il mène des recherches sur la stimulation magnétique transcrânienne et il a publié aux éditions du Pommier « Peut-on manipuler notre cerveau ?» Autrement dit qu'on soit mal ou bien intentionné, comme illusionniste, comme vous, Luc Langevin, pouvez-vous nous empêcher de voir ce qui est sous nos yeux? C'est l'éclairage, à tous les sens du terme, de Christian Marandaz.
C'est vrai qu'on est construit pour fonctionner de manière automatique. Du coup, on ne traite pas tout de manière consciente. Et c'est très économique, ça nous permet de conduire, de faire plein de choses. Du coup, on peut se faire avoir... S'il y a une petite manipulation dans ce que nous montre, eh bien, on ne la verra pas. Mais pour ce qui est de la vision, mais ça vaut pour les autres sens, c'est très important, l'attention, pour que ça arrive à la conscience. Pourquoi on ne voit pas? C'est tout simplement que ce n'est pas arrivé à la conscience.
On m'a vu un truc, mais on ne l'a pas vu, en fait. Enfin,
on l'a vu, on l'a traité. Je vais vous donner une autre explication.
Oui, oui, oui.
Je ne sais pas si c'est un détour. Dans la première... je reviens sur la stimulation magnétique transcrânienne. Une des premières recherches qui a été faite, c'était d'envoyer une stimulation magnétique transcrânienne sur le cortex de la vision, à l'arrière, sur le cortex occipital. Et si on fait ça, si on présente des chiffres identifiés et on envoie une stimulation magnétique transcrânienne sur ce cortex-là, à l'arrière, occipital, eh bien, les 100 millisecondes après avoir présenté des chiffres, la personne n'est plus capable de les identifier. La stimulation a perturbé l'activité des neurones. 100 millisecondes après, à un moment, il se passait quelque chose d'important pour identifier les chiffres. Et si on continue à chercher, qu'est-ce qui se passait de si important? Eh bien, en réalité, il ne faut pas 100 millisecondes pour identifier les chiffres, pour les percevoir. Ça va beaucoup plus vite. Mais si je veux dire que ça, c'est un 6, eh bien, je dois faire appel à un processus conscient. Et c'est ce retour à la conscience qui était perturbé.
C'est-à-dire qu'en fait, on voit les chiffres, mais on n'a pas le temps de les analyser ou de les percevoir consciemment.
Voilà,
quoi.
Le cerveau les a traités jusqu'au bout, mais ça n'accepte pas.
C'est des images subliminales, mais c'est ça.
Voilà,
hein.
Exactement, ça existe. Elles ne persistent pas dans le temps. Mais elles existent. Hein. Et si vous présentez un stimulus rouge qu'il faut éviter, eh bien, vous allez l'éviter sans vous en rendre compte.
On peut donc manipuler très facilement notre cerveau, ça vous parle?
Ah oui, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui est dit ici, tout à fait. J'étais pas au courant de ces recherches lorsqu'on agit de façon magnétique sur le cortex occipital, mais je trouve ça passionnant et je trouve que ça fait beaucoup de sens, en fait. Ouais.
Oui, et vous, ça vous sert dans votre pratique d'illusionniste. Alors vous servez aussi pas mal de certains gadgets, on va dire, vous adorez les aimants. Et
oui.
L'électromagnétisme.
Ah oui, ça c'est merveilleux parce que l'électromagnétisme, c'est une force qui est invisible. Et ça pour un magicien, c'est un outil formidable parce qu'on le voit pas. Donc les électro-aimants, par exemple, peuvent être utilisés pour mettre un objet en lévitation.
Un aimant... La lévitation, c'est magique et ça
oui,
peut exister.
Ben tout à fait. Enfin, même si vous tapez sur Internet lévitation magnétique, vous pouvez voir dans des congrès scientifiques scientifiques, en fait, des chercheurs qui en font la démonstration. En fait, il s'agit de prendre un objet qui est magnétisable, donc qui va réagir à un champ magnétique. Et si on déploie en cercle autour un champ magnétique qu'on peut adapter avec un courant électrique. Donc, lorsque l'objet veut tomber d'un côté, on renforce le champ magnétique de ce côté et on rééquilibre les forces pour le ramener au centre. Donc, on permet à l'objet de toujours rester dans un stade de lévitation, si on veut. À chaque fois qu'il veut tomber d'un côté ou de l'autre, on le pousse dans la direction opposée. Donc, ça le permet de le garder en lévitation. Donc, ça, c'est une chose. Les aimants, voilà, c'est une force d'attraction ou de répulsion qu'on peut utiliser dans de nombreux tours de magie. J'en utilise au quotidien, souvent pour faire des choses dont vous ne soupçonnez même pas. Je crois qu'il y en a dans tous les numéros de mes spectacles. Et vous savez quoi? Même si je vous le dis, vous ne les verrez pas et vous ne comprendrez pas où ils sont parce que c'est fait de façon très ingénieuse.
Ah oui, de façon très ingénieuse et j'imagine oui. En équipe aussi, réglée au cordeau, au millimètre.
Oui, tout à fait. En spectacle, surtout pour la magie de scène, c'est vraiment une chorégraphie entre le technicien d'éclairage, le technicien de son, la scénographie. Tout est mis à profusion pour créer l'illusion parfaite. Par exemple, si je veux donner l'impression qu'un objet est lourd, je peux laisser tomber l'objet et le technicien de son peut faire jouer un son d'un objet qui fracasse le sol en même temps.
Ah, là, c'est notre oui, là, qui est trompé.
Voilà, exactement. Donc, mais si le son n'est pas synchro avec le mouvement, c'est raté. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe pour la magie de scène.
Je crois que vous réfléchissez d'ailleurs pour nos amis auditeurs, pour la radio, parce que c'est compliqué de faire de la magie à la radio.
Plus souvent qu'autrement, la finalité du tour est visuelle. Du moins avec la magie, moi, que je préconise. Donc, c'est jamais évident de faire un tour complètement auditif. Mais j'y travaille et je vous reviens dès que j'ai des résultats.
J'espère bien. Et dès que vous avez peut-être trouvé en science matière à inspiration, parce que vous vous inspirez aussi des propriétés de la physique quantique, Luc Langevin, pour faire de la téléportation, c'est ça?
Oui, ben en fait la physique quantique c'est quelque chose qui fait énormément rêver puisqu'elle rend possible des phénomènes finalement qui n'existaient que dans notre imaginaire jusqu'à maintenant dans l'univers des magiciens. Donc il y a quelques années par exemple il y a une équipe de chercheuses chinoises qui a réussi à téléporter une particule de lumière, un photon. Donc c'est de la téléportation quantique. Donc ça fait rêver parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on réussit à télétransporter quelque chose. Donc c'est très inspirant. La physique quantique, en fait, moi, je trouve c'est la magie du temps moderne. C'est ce quelque chose qu'on ne comprend pas trop, que la majorité des gens ne comprend pas trop, mais qui explique des phénomènes comme la téléportation, comme les univers parallèles, comme un paquet de réalités qui, normalement, font partie de la science-fiction, mais qui, on l'apprend maintenant avec cette nouvelle science qui est bien réelle, finalement.
Oui, entre rationnel et irrationnel, la frontière peut être un peu floue, mais en même temps, tout est explicable, compréhensible quand même, selon vous?
Oui, ben en fait, c'est pas vrai. La science n'explique pas tout à l'heure actuelle. Le défi dans la physique moderne, entre autres, c'est de relier la physique quantique à la relativité générale d'Einstein. Donc, c'est de relier les théories de l'infiniment petit à celles de l'infiniment grand. Donc, il reste encore des choses inexpliquées par la science, mais on voit quand même des débuts d'explication. On voit qu'il y a quand même une explication rationnelle à tout. Je le dis parce que je suis un grand sceptique en général par rapport à tout ce qui est diseuse de bonne aventure, toute personne qui prétend pouvoir, par exemple, parler à des personnes décédées ou voir l'avenir, par exemple. C'est des choses qui, en fait, si quelqu'un vraiment était capable de faire ça, ce serait la plus grande découverte scientifique de notre époque et cette personne serait sûrement très riche et ne serait pas en train de dire la bonne aventure sur un coin de rue et à mendier. Donc, il y a certaines choses qui sont possibles et d'autres, il faut être sceptique. Voilà.
Mais ce qui vous est possible à vous, sur scène en tout cas, c'est de deviner les pensées de vos spectateurs.
En fait, c'est beaucoup plus facile de deviner les pensées de quelqu'un quand on lui met quelque chose dans la tête et qu'on lui donne l'impression que c'est lui qui a pris cette décision.
Par exemple, allez sans trop nous dévoiler comment vous faites, mais par exemple.
Par exemple, pensez-vous avoir choisi vous-même de nommer l'as de pique tout à l'heure dans le numéro que je vous ai fait ou si vous pensez que c'est moi qui vous a guidé par là? Je vous pose la question.
Je me suis demandé pourquoi ça m'était arrivé parce que c'est arrivé immédiatement.
Regardez sur la surface de mon paquet ce qu'il y a.
Ah d'accord.
Donc d'accord. Cette image, il y a un as de, pour nos auditeurs, il y a un as de pique sur la boîte de mon jeu de cartes qui
donc
est là,
moi,
qui est là
ça.
Mais qui est pas là. Vous voyez, c'est le symbole, mais c'est pas la carte en elle-même. Vous l'avez vu, je vous l'ai montré, puis soudainement je vous demande de me nommer une carte à jouer. C'est la première qui vous vient à l'esprit parce que c'est la chose la plus récente que vous avez vue par rapport à des cartes à jouer. Donc, mais vous aviez.
Alors, Apolline de l'autre côté de la vie, me dit que vous n'aviez pas encore sorti votre jeu quand
vous
m'avez.
Ah, c'est bien vu, Pauline.
quand vous m'avez posé la question. Ah non, c'est Caroline, pardon. Fillette, hein, je crois. Voilà. À tout seigneur, tout honneur. Alors que moi, là, je me suis fait avoir complètement.
Mais le but, c'est toujours ça. C'est de donner l'impression du choix, finalement. C'est une des façons dont qu'on peut utiliser pour donner l'illusion qu'on lit dans les pensées des gens. Parce qu'il faut dire, c'était pas un numéro de lecture de pensée, là, non plus, qu'on faisait. C'était une illusion où votre carte se matérialisait dans votre main aussi.
C'est magique. On écoute Alpha Blondie sur RFI. C'est magique avec Alpha Blondie sur RFI et avec notre invité, le célèbre illusionniste Luc Langevin. Autour de la question, y a-t-il une science de l'illusion? La réponse est évidemment oui, hein, Luc Langevin. Un art et une science de l'illusion. Et c'est donc maintenant un artiste, et pas n'importe lequel, Hervé Di Rosa, l'un de nos plus éminents artistes contemporains, créateur du MIAM, le musée des arts modestes à Sète, qui lui aussi s'intéresse beaucoup à la science. Il vient de revisiter la bibliothèque de Pasteur à la demande de l'Institut Pasteur. Et il a une question à vous poser.
C'est depuis Robert Houdin, certainement, que les techniques ont beaucoup évolué dans ce métier. C'est un métier, la magie et l'illusion. J'ai des filles qui adorent ça. Et j'aimerais lui demander, est-ce que c'est toujours les mêmes vieux trucs qui sont adaptés avec des technologies nouvelles, ou les technologies nouvelles ont complètement transformé la manière de pratiquer ce métier de magicien et d'illusionniste?
Votre réponse, Hugues.
Oui, c'est une très bonne question. Il est vrai que par le passé, il y a des siècles, il y a de très grands illusionnistes comme Robert Houdin qui ont développé des illusions, des techniques pour faire rêver qui sont très efficaces et qui fonctionnent encore aujourd'hui. Et donc, certains nouveaux numéros sont simplement des reprises, finalement, de ces techniques, des modernisations de ces techniques qui donnent l'impression au grand public d'un numéro complètement différent qu'on n'a jamais vu. Donc ça, c'est une chose, mais l'apparition de nouvelles technologies fait aussi que les les illusionnistes modernes créent de nouvelles choses qui n'existaient pas auparavant.
Vous vous servez des téléphones portables?
Ben, tout à fait. Les téléphones portables, ces écrans, ça faisait pas partie de nos vies il y a 10 ans peut-être, ou en tout cas ça commençait. Aujourd'hui, comme tout le monde a un téléphone portable, ça, c'est un univers d'illusions qui s'ouvre devant les créateurs de magie, justement. On peut créer, maintenant que tout le monde a un écran à portée de main, je peux vous demander de penser à une carte et vous la révéler par les réseaux sociaux sur votre téléphone, où il existe millions de possibilités de filmer avec le téléphone et puis que la réalité diffère de ce qui est filmé. Donc, il existe plein de possibilités. Donc, toutes des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, c'est un des exemples d'avancées technologiques qui fait avancer la magie.
Et puis, vous pouvez aussi, avec un téléphone portable, non pas le faire disparaître, mais le faire se retrouver dans une poche autre que celle de son propriétaire, comme vous auriez fait avec un autre objet.
Tout à fait. En fait, dans mon premier spectacle, j'empruntais un téléphone portable à un spectateur, je le faisais disparaître, et avant de montrer où il était réapparu, je pouvais demander à la personne de s'appeler, et on entendait la sonnerie provenir de son siège, là où le téléphone était réapparu. Donc, juste d'entendre la sonnerie pour mener à la révélation, ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant, et qui rend le numéro encore plus magique. Donc,
même temps, vous avez évidemment, dépoussiéré cet art et cette science de l'illusion. Vous n'avez aucune assistante courtement vêtue à vos côtés. Enfin, c'est pas ça, hein?
Non, j'aime moins. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu sexiste à cette vieille tactique pour attirer l'attention là où il faut.
Ah, c'est ça, en fait.
Ben oui. Mais je trouve que maintenant, la science nous permet d'attirer l'attention de façon plus élégante, je trouve. Donc, non, moi, sur scène, j'ai jamais d'assistante. J'ai jamais d'assistante non plus. Je suis seul sur scène. Je préfère être maître, en fait, de l'illusion, de ce que je fais vivre au public.
Ça arrive que ça rate?
Oui, ça arrive, mais l'avantage qu'un magicien ou qu'un illusionniste a, c'est que les gens ne savent pas comment va se terminer le numéro. Donc, moi, ce que je fais lorsqu'un numéro ne s'en va pas là où je croyais que ça irait, ben, je peux improviser et terminer autrement. Donc, et les gens n'auront jamais connaissance que...
Jusqu'au bout d'illusion. Et voilà. Est-ce que vous-même, vous vous laissez illusionner par vos collègues, confrères, illusionnistes? Est-ce que vous allez voir des spectacles de magie?
Ah oui, je vais en voir le plus que je peux. C'est certain que ça arrive de moins en moins souvent que je suis complètement bluffé par une illusion. Ça arrivait souvent quand j'étais plus jeune et j'adorais ça. Et maintenant, quand ça arrive, j'essaie d'apprécier le moment au maximum parce que ça arrive de moins en moins. Évidemment, comme n'importe quel professionnel, on se met à avoir un œil critique sur ce que font nos collègues.
Vous décryptez, vous comprenez, vous voyez les trucs, hein, les
en
astuces.
En fait, je vois des morceaux. Souvent, je vois les choses se mettre en place. Je vois où le magicien veut en venir. Parfois, je vais voir le punch du numéro avant le temps, mais je vais quand même apprécier comment c'est fait. Donc, je suis quand même capable de voir qu'un illusionniste est talentueux et capable de me laisser transporter aussi, d'oublier, comme je pense un réalisateur de film, par exemple, peut aller au cinéma et se laisser transporter par un film aussi.
Et en même temps, ce que vous dites qui est très important, c'est que l'illusion, la magie, ça ne peut pas se faire tout seul. Il vous faut toujours l'autre, le public. Hein?
Ah ben oui, c'est pour créer, comme je disais, la magie, elle se crée dans la tête des gens, donc ça les prend ses têtes pour la créer. Si on fait de la magie dans le vide, c'est beaucoup moins intéressant. Moi-même, j'ai commencé à faire de la magie pour entrer en contact avec les gens, pour me permettre de briser la glace parce que j'étais très timide. Donc, sans spectateur, ça n'a pas vraiment de sens.
Oui, c'est assez étonnant de vous raconter, hein, votre parcours pas si évident que ça. Maintenant, vous êtes devant des salles nombreuses, vous avez fait de la micro-magie, donc vraiment en vous approchant tout près des gens. Vous n'avez plus peur des gens, la magie vous a guéri.
On peut dire ça comme ça, oui, c'est venu... En fait, ça m'a apporté ce que j'avais de besoin à une époque où je cherchais justement comment entrer en contact avec les gens et c'était le remède. Et je pense que beaucoup de jeunes magiciens ont le même profil, commencent de cette façon, voient en la magie une manière, je dirais pas facile, mais une manière attirante. En fait, souvent, les jeunes scientifiques, des gens qui aiment comprendre, qui ont une passion, qui ont une curiosité, mais vont voir dans la magie un outil, un très bon outil pour entrer en contact avec les gens.
Donc, voire même pour manipuler une jeune fille, peut-être, pour
draguer,
c'est pas mal.
Ça peut fonctionner. Pour rentrer, pour briser la glace. Après, il faut passer à autre chose. On peut pas faire que des tours toute la soirée, mais ça peut aider, effectivement.
Vous dites aussi que votre colonne vertébrale, dans cet art de l'illusion, c'est la science.
Oui, bah oui, tout à fait. Autant la science, elle me sert de mécanisme pour trouver, en fait, pour faire fonctionner les illusions. Donc, pour faire disparaître, pour faire apparaître, pour téléporter. Je vais souvent utiliser des principes scientifiques méconnus par le grand public. La science me sert aussi comme artifice de présentation. Parfois, je vais parler d'un phénomène scientifique au public.
Pour nous embrouiller un peu.
Un peu, oui. C'est pas nécessairement le phénomène que je vais utiliser pour mettre en œuvre le secret de l'illusion, mais c'est ce qui va faire rêver, c'est ce qui va guider l'imaginaire du spectateur dans la bonne direction. Et c'est aussi ma signature aussi maintenant dans mes émissions de télé au Canada. Dans les génériques d'ouverture, il y a des équations mathématiques qui tournent autour de mes mouvements. Donc ça me donne une couleur, ça me permet de me différencier par rapport à mes collègues.
Aussi. Et rien n'est impossible pour l'illusionniste que vous êtes, Langevin, ou est-ce qu'il y a de l'impossible encore?
Je crois qu'on est limité uniquement par notre imagination. On se met nous-mêmes nos barrières dans toutes les facettes de la vie, je crois.
Ah, ce serait ça votre message?
C'était même le message de mon tout premier spectacle, en fait, que rien n'est impossible, que peu importe, si on peut le rêver, on peut le faire, en fait.
Merci infiniment d'avoir fait escale, de vous être téléporté dans notre studio sur RFI, Luc Langevin. On peut vous retrouver donc sur scène au Québec, hein. Vous êtes en tournée tout ce printemps, mais aussi sur la toile, bien sûr. Bientôt en 2019, dans une tournée en Europe. Et je rappelle évidemment votre ouvrage passionnant, La science de l'illusion, aux éditions Michel Lafon, passionnant, dans lequel vous faites partager quelques-uns de vos trucs et astuces, mais surtout votre science de l'illusion pour remettre un peu de magie dans nos vies et comprendre aussi comment on fonctionne, et on fonctionne beaucoup sur l'illusion. Merci à vous, Luc.
Merci, Caroline.
Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster sur le site de RFI. Demain, c'est Sophie Joubert que vous retrouverez à ce micro. Lundi, ce sera Antonio Fischetti qui prendra le relais, avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain à Kigali, au Rwanda, au Next Einstein Forum, pour découvrir les lauréats et lauréates des bourses d'excellence en sciences mathématiques et physiques du NEF. Et parmi eux, peut-être le prochain ou la prochaine Einstein panafricaine. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Dans quelques instants, ce sera l'heure d'un nouveau journal sur RFI.